Ésaïe 2, verset 22, il est dit « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» Je le relis « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» Et voilà la question qui nous intéresse ce soir, de quelle valeur est l'homme ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela ? Quelle est la valeur de l'homme ? Alors on aime être considéré à notre juste valeur. Je ne sais pas si vous aimez, si vous avez une certaine qualité que les personnes le sachent. On aime bien quand même être plus ou moins connu dans telle ou telle chose dans lesquelles on réussit ou pas. Savoir qu'on a des limites aussi, on aime bien le savoir, être considéré à notre juste valeur. Il y a des gens qui sont très forts pour essayer de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et je lisais un petit récit là d'un marathon de Bruxelles en 91 où il y avait un gars qui a voulu se faire passer pour le champion qu'il n'était pas. Et il avait utilisé une stratégie, c'est-à-dire que pendant la moitié du marathon, c'était son entraîneur qui courait avec le dossard 62. Puis à un moment donné, les gens qui étaient en tête, ils ont vu ce gars qui petit à petit reculait, il se laissait dépasser. Il a disparu de la surface, personne ne savait où il était. Et puis à un moment donné, ils ont vu le numéro 62 revenir à fond et finir en sprint. Alors tout le monde était fatigué des 40 et quelques kilomètres. Lui, il était en pleine forme. Le problème, c'est qu'entre-temps, il avait perdu la moustache. Parce que le premier avait une moustache et le deuxième ne l'avait pas. Donc ils se sont vite fait repérer. Mais vous comprenez que des fois, des personnes veulent se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et on voit même que c'est quelque chose qui est dans la Bible. Il y a un certain monsieur Jacob qui a choisi de se faire passer pour son frère pour obtenir la bénédiction. On peut même se tromper soi-même en utilisant des faux raisonnements, en s'appuyant sur de mauvaises pensées. Mais comment est-ce qu'on peut déterminer de quelle valeur est l'homme ? Ça dépend de deux choses, je pense. Ça dépend de la valeur morale de ce que nous faisons, et ça dépend aussi de celui qui nous juge, de celui qui nous regarde. Imaginez un instant, si un homme fait le bien, et que son patron est un tricheur et un voleur, et que cet homme-là, il fait tellement le bien, il est tellement honnête qu'il fait remonter tout ce qui ne va pas. Est-ce que son patron va forcément l'augmenter ? Je pense qu'il fera tout l'inverse. Il va favoriser quelqu'un qui est comme lui. Mais par contre, si le patron est droit et qu'il voit que l'homme est droit, il va le faire fructifier. Jésus, dans sa vie de tous les jours, il était irréprochable. Jésus, il a pu dire « Je fais toujours ce qui est agréable à Dieu ». Je ne sais pas qui aujourd'hui pourrait se permettre de dire « Moi, je suis comme Jésus, je fais toujours ce qui lui est agréable ». Je crois que personne ne peut le dire. Pourtant, quand on voit ce que les pharisiens ont demandé pour le sort de Jésus, on peut bien dire que Jésus, ce qu'il faisait, c'était moralement irréprochable, parfait. Mais parce que ceux qui le jugeaient étaient intéressés seulement, étaient motivés seulement par la jalousie, étaient motivés seulement par la crainte de perdre l'influence. Ils avaient une influence religieuse sur les gens et ils avaient peur, à cause du ministère de Jésus, toutes les paroles qu'ils disaient, ils avaient peur de perdre tout cela. Le résultat, c'est qu'ils ont demandé la mort de Jésus. Maintenant, un juge qui voit quelqu'un qui a été pris en flagrant délit de meurtre, qu'est-ce que ce juge comment ce juge va voir cet homme ? Il va le voir comme quelqu'un qui mérite un châtiment, puisque c'est son travail, le juge doit trouver le châtiment approprié au crime. Mais maintenant, la maman qui regarde cette même personne qui a tué quelqu'un, la maman du meurtrier, comment est-ce qu'elle le regarde ? Oui, bien sûr, comme un meurtrier, mais elle le regarde comme son fils. Quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit ce qu'il fera, c'est toujours son fils. Et vous voyez que la personne qui juge est tellement importante et... Pour savoir de quelle valeur nous sommes, nous avons besoin de savoir, d'avoir quelqu'un qui nous juge, mais quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui va accepter de nous dire les choses, quelqu'un qui est impartial. Et le mieux placé, vous avez compris où c'est que je veux en venir, le mieux placé pour nous dire de quelle valeur nous sommes, c'est Dieu. Parce qu'il est dans cet aspect-là des choses. Dieu ne regarde pas à l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Hébreux 4, verset 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Est-ce que ça, c'est pas le meilleur juge au monde et de tout l'univers même, le Seigneur, celui devant lequel rien n'est caché ? C'est-à-dire qu'il peut juger avec vraiment tous les éléments. Il connaît ce que nous avons fait de bien, il connaît ce que nous avons fait de mal. Et puis Dieu ne juge pas en fonction des sentiments, en fonction des circonstances. Dieu, il juge parfaitement parce qu'il juge d'après sa parole. Et sa parole est éternelle. La question donc, c'est de savoir de quelle valeur est-ce que je suis aux yeux de Dieu. Et la deuxième question auquel on va essayer de répondre, c'est comment est-ce que je fais pour grandir devant Dieu ? Mais d'abord, de quelle valeur sommes-nous aux yeux de Dieu ? Mais dans ce verset, on voit déjà que la valeur que nous avons, c'est quelqu'un qui a un souffle dans les narines. La vie des hommes n'est qu'un souffle. Ça nous parle de fragilité, ça nous parle de quelque chose d'éphémère. Il y a même un verset qui dit que tous les hommes, si on les pesait dans une balance, ils sont seulement comme un souffle, devant Dieu. Qui pourrait se comparer à Dieu ? Nous sommes qu'un souffle. Regardez avec moi le psaume, verset 8, qui va un petit peu plus loin. Chapitre 8, verset 4. Il nous est dit « Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné les dominations sur les œuvres de tes mains. Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? » Et on voit que le psalmiste, il se pose cette question juste après avoir regardé les étoiles, juste après avoir regardé le ciel, juste après avoir regardé la création tout entière qui nous parle de la grandeur de Dieu. Et puis il voit tout ça et puis il dit « Seigneur, mais tu nous as créés aussi, nous sommes une créature de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé le monde, Dieu n'a pas créé l'univers, Dieu n'a pas créé chacun d'entre nous, juste pour nous dire « Voilà, je vous place sur la planète Terre. Maintenant, vous vous débrouillez avec les lois physiques et avec les lois morales, et etc. » Moi, je regarde de loin. Mais cet homme a réalisé que Dieu se souvient de chacune de ses créatures. Dieu est intéressé par chacune de ses créatures. Nous sommes les créatures de Dieu, mais Dieu est en plus intéressé par chacune de nos vies parce que c'est lui qui nous a créés. Comme un père qui met un enfant au monde, il y a un lien particulier qui se crée. Dieu est intéressé de la même manière. Et devant l'humanité tout entière, Dieu est ému de compassion. Si vous êtes dans la maladie, si vous êtes dans la souffrance, Dieu veut vous guérir. Si vous êtes dans le découragement et que vous n'en pouvez plus, que vous êtes lassé, épuisé, Dieu veut vous relever. Si vous êtes perdu et que vous ne savez pas où vous diriger dans votre vie par rapport à des questions particulières, Dieu veut vous ouvrir une porte. Si vous avez peur du lendemain, Dieu veut vous donner sa paix. Quel que soit le besoin que l'on peut rencontrer, parce que nous sommes les créatures de Dieu, Dieu veut intervenir en notre faveur. Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut nous faire grâce. Mais le problème, c'est qu'il y a un obstacle à cette grâce. Regardez un peu plus loin dans le psaume 14, verset 2. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et en particulier dans ce verset, il est question de l'intelligence selon Dieu, c'est de chercher Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le problème des hommes, c'est pas qu'ils sont des créatures de Dieu, ça c'est une bénédiction. Le problème des hommes, c'est le péché qui est dans le cœur. Dieu se plaît à bénir, mais il ne peut pas bénir quelqu'un qui reste dans son péché, et quelqu'un qui rejette ses commandements, quelqu'un qui ne veut pas faire sa volonté. Imaginez un instant, ça m'est déjà arrivé, que je trouve quelque chose, un joli cadeau à offrir à mes enfants, et puis je rentre à la maison, et la maison est en bazar total, parce qu'il y a des jouets qui traînent de tous les côtés, des habits, tout ce que vous voulez, ils ont écrit sur les murs, je ne sais pas. Bon, c'est pas arrivé encore, heureusement, mais on ne sait jamais. Imaginez que j'arrive avec mon cadeau dans mon sac. Est-ce que je ne vais pas demander qu'ils remettent les choses en ordre avant que je leur offre le cadeau ? Même si je voulais leur offrir de bon cœur, sans qu'ils le méritent. Mais il va falloir qu'ils mettent en ordre la maison. Comprenez ? Est-ce que Dieu, qui est parfaitement juste, parfaitement saint, ne peut pas exiger la même chose de nous d'un point de vue spirituel ? Dieu nous demande d'honorer le mariage et on voit dans notre société... Mais beaucoup de gens qui n'honorent pas le mariage. Soit on vit en concubinage, ou soit on est marié, mais on a des maîtresses. Est-ce que c'est ça, honorer le mariage ? Non. Dieu demande de ne pas mentir, et aujourd'hui on pense que si avec le mensonge je peux obtenir quelque chose, c'est pas grave, il vaut mieux mentir. Dieu demande de ne pas voler, mais on se permet de garder ce qui ne nous appartient pas. Ah, la caisse, la caissière fait une erreur dans la monnaie qu'elle nous rend. Elle nous rend un billet de 100 euros au lieu de 10. Et nous, on est contents. Merci Seigneur, tu m'as béni. Mais notre conscience, au fond, va nous dire autre chose. Dieu demande d'aimer notre prochain, mais aujourd'hui, on n'aime que ceux qui nous intéressent. À chaque situation qui se présente devant nos vies, le Seigneur, il nous éprouve. Dieu regarde du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent. Et quand il nous éprouve, il va nous trouver pécheurs, parce qu'il connaît le fond de l'homme. Et il a vu à un moment donné, au moins une fois, mais c'est un minimum, mais au moins une fois, tous autant que nous sommes, nous avons été éprouvés et nous avons été trouvés pécheurs. Et le résultat, c'est que nous sommes les créatures de Dieu. De quelle valeur sommes-nous ? Nous sommes les créatures de Dieu, mais souillés par le péché. Nous sommes les créatures que Dieu veut bénir, mais empêchés d'être bénis parce que nous sommes sur le chemin qui conduit à l'enfer à cause de ce péché. Le salaire du péché, c'est la mort. On connaît bien ces versets. Alors comment est-ce que nous pouvons grandir devant Dieu ? Comment est-ce que nous pouvons arriver à ce que le regard de Dieu change sur notre vie ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Avant de pouvoir faire quelque chose, il a fallu que Dieu montre à quel point notre vie était précieuse à ses yeux. Il a fallu que Dieu envoie son propre Fils pour mourir à la croix pour nous. Il a fait ce qu'aucun autre homme ne pouvait faire. Le problème de chacun des hommes, ça vient de notre nature. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « Est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa couleur de peau ? Et un léopard, est-ce qu'il peut changer ses taches ? De même, est-ce que vous pourriez faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» On imaginez aller chercher avec une éponge gratter la peau du léopard. Vous essaierez, vous viendrez me témoigner après si vous avez réussi à sortir les taches. Et nous, des fois, on est là, on essaie avec nos moyens humains, nos éponges humaines, on essaie d'enlever notre péché et on se rend compte que ça sert à rien. On se rend compte que ça sert à rien par soi-même de changer ou par les autres de changer. On se rend compte que même le fait de venir à l'église, ça ne nous change pas en soi. Le fait de faire des bonnes œuvres, le fait d'avoir une grande fortune, c'est pas ça qui nous change. Le fait d'avoir une grande intelligence, de raisonner, d'avoir des bons arguments, ça ne change personne. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu fasse quelque chose. Lui, il pouvait faire quelque chose que nous, on ne pouvait pas faire. Il a trouvé un moyen pour changer notre nature. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Notre nature était pécheresse, nous étions une créature souillée par le péché, donc Dieu a voulu faire de nous une nouvelle créature. Il nous a donné un moyen pour devenir une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, car Dieu était en Christ, au verset 19, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. J'ai été interpellé dans ce passage qu'on connaît bien, on connaît bien surtout le début, mais cette parole qui dit que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Dieu était en Christ et c'est par ce moyen que Dieu s'est révélé, manifesté en chair dans la personne de Jésus-Christ et qu'il nous a réconciliés. Le désir de Dieu, parce qu'il nous aime, il a voulu montrer son amour en cherchant à nous réconcilier avec lui. Tout ce que Jésus a fait, il a fait par la volonté de Dieu. Jésus, quand on regarde sa vie, on se rend compte qu'il manifestait parfaitement le cœur de Dieu. Quand il voyait une personne qui était malade, une personne qui était aveugle, une personne qui était boiteuse et qui demandait grâce, mais qu'est-ce qu'il faisait le Seigneur ? Il faisait ce que Dieu veut faire pour chacun de nous si nous sommes en détresse, il le guérissait, il le bénissait. Et alors que les gens religieux étaient là et condamnés, ils étaient méprisants face aux gens qui étaient faibles, aux gens qui étaient malades, le Seigneur Jésus, lui, il était plein de compassion, plein de miséricorde. Jésus, comme on l'a dit, il a pu dire cette parole, « Je fais toujours ce qui lui est agréable », ce qui fait que quand Dieu regardait le Seigneur Jésus, il voyait ce qu'il avait de plus cher au monde. Son Fils bien-aimé en qui il avait mis toute son affection. Mais parce qu'il nous a aimés, le Seigneur, parce qu'il nous aime et qu'il nous estime à une valeur incroyable, il a mis le prix, il a donné son Fils, ce qu'il avait de plus cher. Le seul sacrifice acceptable, c'était qu'un innocent paye à notre place. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez reçu une contravention. Bon, je prends une contravention, c'est pas grand-chose. Mais imaginez que vous n'avez aucun moyen de payer. Et puis, il y a Monsieur Dupont qui arrive. Je prends des noms au hasard aussi, hein. Monsieur Dupont qui arrive et qui dit « Ne vous inquiétez pas, moi j'ai de quoi vous rembourser la contravention, il n'y a pas de souci. » Le juge est en train de voir Monsieur Dupont et lui dit mais vous, Monsieur Dupont, attendez, je vous ai aussi sur la liste. Vous êtes aussi coupable, tous vos biens sont gelés. » Alors Monsieur Durand arrive et il dit « Mais moi je peux payer pour tous les deux, je suis encore plus riche que Monsieur Dupont. » Et le juge il dit « Mais Monsieur Durand, ah oui, oui, vous aussi vous êtes en tort. Vous ne pouvez pas payer parce que l'argent est gelé par la justice. » Le seul moyen que nous puissions être épargnés, c'est que quelqu'un d'innocent paye pour nous. Comprenez le raisonnement ? Sauf que ce que Jésus a fait, ce n'était pas une question d'argent, quelques euros. Il a payé pour tous les pécheurs en offrant sa vie. Et de ce moyen-là, il nous a montré à quel point il nous aime, de quelle valeur notre vie est là aux yeux de Dieu. Maintenant, en Christ, vous avez vu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il faut être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, nous pouvons être pardonnés, nous pouvons devenir une nouvelle créature. Ça veut dire que je peux maintenant honorer le mariage, ça veut dire que je peux ne plus mentir, ça veut dire que je ne vole plus, ça veut dire que maintenant je peux aimer mon prochain comme moi-même. Je prends cet exemple, j'avais acheté pour mes enfants une petite voiture que j'avais commandée sur un site, et ça je l'ai achetée en novembre, et au bout du mois de janvier, toujours aucune nouvelle de la voiture, c'était normalement pour Noël. Bon, ça, c'était un peu loupé pour Noël. En tout cas, j'ai communiqué avec le gars, j'ai dit, mais j'ai rien reçu, est-ce que c'est normal ? Donc le gars, il a dit, bon, finalement, ne mettez pas de mauvaises notes sur mon site, je vous renvoie l'objet. Et puis, un jour arrive, je reçois un colis, bon, très content, l'objet est arrivé. Et puis, quelques jours plus tard, un autre colis arrive. Finalement, le premier colis est arrivé après le deuxième. Vous comprenez ? Parce que je ne sais pas quel chemin il a pris. Mais les deux colis sont arrivés, sauf que moi, j'avais déboursé que pour une voiture. Et est-ce que j'allais dire aussi, merci Seigneur, tu es bon. Tu as multiplié. Alléluia, Dieu de multiplication. Mais dans mon cœur, ce n'était pas ça qui était dit. Dans mon cœur, c'était, Seigneur, il faut que je donne la monnaie. Le fait de renvoyer le colis, pour moi, c'était plus compliqué. J'ai dit, bon, c'est pas grave, j'ai deux garçons, deux voitures, c'est parfait. Mais par contre, il faut que je paye. Parce que je suis une nouvelle créature. Avant, j'aurais dit, oui, c'est le hasard qui fait bien les choses. Ou j'aurais trouvé toutes sortes d'excuses pour pas être en règle. Mais maintenant que je suis une nouvelle créature, je ne vole plus. Alors, je me suis donné au Seigneur très jeune, donc j'ai pas fait des grands vols. Je me souviens que j'avais volé une gomme à un ami en classe, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je me souviens que ça m'avait trotté dans le cœur cette histoire. Et il suffit de pas grand-chose pour être un voleur. Et il suffit de pas grand-chose pour être un pécheur devant Dieu. Mais maintenant, en Christ, je peux devenir une nouvelle créature. Parce que Dieu a envoyé son Fils, parce que Dieu a fait ce qu'il fallait, maintenant, moi, je peux faire quelque chose pour grandir aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose d'incroyable que personne ne pourra imiter, mais maintenant, il y a notre part à nous à faire. Et je pourrais dire, mais c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait. C'est grandiose. Et puis, croiser les bras et attendre que je devienne une nouvelle créature. Mais le Seigneur, il dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Je peux refuser celui qui me paye la contravention et rester en prison, alors qu'elle a été payée depuis longtemps par le sacrifice de Jésus. On va voir trois choses qui nous expliquent ce que nous devons faire pour que le regard de Dieu change. Matthieu chapitre 11, verset 11. Comment est-ce que nous pouvons grandir, être grands aux yeux de Dieu ? Voilà, c'est des textes que vous connaissez aussi. Matthieu chapitre 11, verset 11, Jésus est en train de parler de Jean-Baptiste, et il dit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a paru de plus grand, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. » Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste était grand ? Il a dit, hein, c'est le Seigneur Jésus quand même qui parle. Il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que c'était celui de qui il était question, qui préparait le chemin devant le Seigneur, devant le Messie, devant celui qui allait être envoyé de la part de Dieu pour sauver son peuple. C'est pour ça que Jean-Baptiste, c'était un prophète particulier. Tous les autres prophètes de la parole, ils ont annoncé la venue de Jésus, ils ont eu des prophéties incroyables, mais ils n'ont jamais vu Jésus de leurs yeux. Ce Jean-Baptiste, il a annoncé la venue du Seigneur, mais il a dit, voilà, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a dit un jour. C'est lui, c'est Jésus, il a indiqué qui c'était. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, il avait un ministère particulier, il avait un message particulier, alors qu'il était dans le désert, alors qu'il était loin de tout moyen de communication, les gens venaient en foule pour écouter son message, parce que c'était un message de Dieu. Et ce message, c'était « Repentez-vous et produisez du fruit de la repentance ». Oui, combien c'est important de demander pardon pour le mal que l'on a fait. Dieu a donné son Fils pour que nous puissions avoir le pardon, mais nous devons nous repentir. Et nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Quand les gens venaient voir Jean-Baptiste, ils se posaient tous la question, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et à la foule, Jean-Baptiste lui dit, mais si vous avez deux tuniques, il faut que vous en donniez une à celui qui est nu. Si vous avez de quoi manger en abondance, il faut que vous partagiez votre pain. Et puis, il y a des soldats qui venaient, et Jean-Baptiste, il donnait la chose appropriée aux soldats. Il y avait des fonctionnaires qui venaient, des publicains, et ils disaient, mais surtout, ne prélevez pas plus d'impôts qu'on vous demande d'en prélever. À chacun, il y a un fruit de la repentance qui est différent. Parce que ça dépend de ce que l'on a fait comme mal. À chacun. Mais pourquoi est-ce que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que Jean-Baptiste, il prêchait la repentance, il prêchait le pardon des péchés, il prêchait ce que Jésus allait faire, mais Jean-Baptiste, il est mort avant d'avoir vu Jésus mort en croix. Et Jean-Baptiste, il disait, le royaume de Dieu est proche. Mais par la repentance, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Le royaume de Dieu est proche, mais si je suis seulement en train de demander pardon pour mon péché parce que Jésus est mort à la croix, je rentre dans le royaume de Dieu, je rentre dans cet endroit où Dieu règne, et le résultat, c'est que je deviens grand dans ce royaume, aux yeux de Dieu. Si ça venait de moi, cette parole, j'oserais même pas la prononcer. Vous imaginez être grand aux yeux de Dieu, dans le royaume de Dieu, ça fait orgueilleux, ça fait arrogant, mais c'est Jésus qui dit. Celui qui se repent, celui qui rentre dans ce royaume, il est un des plus grands. Celui qui passe par cette repentance, il est un des plus grands dans le royaume de Dieu. Regardez ce passage aussi dans Matthieu 18, juste après. Encore une histoire où c'est les apôtres qui se demandent qui est le plus grand, justement. Ils ont des bonnes questions, mais avec une bonne intention. C'est pour savoir lequel d'entre eux est le meilleur. Matthieu 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Bon, pourtant, la question est bien posée. Mais Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera, qu'est-ce qu'il dit ? Sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. L'humilité de reconnaître qu'on est dépendant, qu'on ne peut pas diriger notre vie tout seul et qu'on a besoin d'un père. On n'a pas besoin d'un Père d'ailleurs tout seul, on a besoin du Père Céleste pour diriger notre vie. On a besoin du Seigneur Jésus qui est appelé le Père Éternel pour nous conduire dans notre vie. On a besoin de le suivre, on a besoin par la repentance de renoncer au péché, de se rendre compte que c'est mal aux yeux de Dieu, mais on a besoin aussi de nous rendre compte que sans Dieu, on ne pourra pas marcher sur le chemin de la vie, on ne pourra pas faire ce qui lui plaît. On a besoin de se convertir. Se convertir, ça veut dire se tourner vers le Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9, je le lis pour vous, il est question de ce que ça veut dire se convertir au Seigneur. Vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Est-ce que vous attendez des cieux Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez qu'il va tarder encore longtemps? Je crois qu'il va bientôt venir. Il y a beaucoup de choses qu'on voit autour de nous qui nous montrent que son retour est proche. Mais oui, je veux, Seigneur, me convertir. Oui, je veux te suivre. Oui, je veux avoir l'humilité comme un petit enfant. Là, il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire par rapport à un petit enfant. Vous êtes d'accord? Il y a plein d'exemples qu'un petit enfant nous donne par rapport à l'attitude que nous devons avoir envers Dieu. Mais Jésus souligne, dans ce passage, il souligne l'humilité. L'humilité de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Un enfant, il a besoin de ses parents. Si vous voyez un enfant tout seul dans un centre commercial, vous allez le voir sûrement en train de pleurer, parce qu'il cherche ses parents. Parce qu'on a besoin du Père Céleste. Et il y a ce dernier passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 13, verset 31. Cet avant-dernier passage. Jésus propose une parabole. Matthieu 13, 31, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un grand arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Vous avez remarqué, le royaume des cieux est semblable à une petite graine qui est semée, mais une fois qu'elle a poussé, elle devient un grand arbre, plus grand que toutes les choses qui l'entourent. Ça nous fait penser à ce que le Seigneur Jésus a dit, enfin, au travers de sa parole. Il a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et si dans mon cœur, je reçois cette petite graine de foi du royaume de Dieu, je crois à l'Évangile, je crois à la grâce, je crois que Jésus est mort pour mon péché. Un homme un jour a demandé à Paul, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul a dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois, avoir la foi. La foi, c'est comme cette petite graine qui est plantée dans notre cœur et qui, en la laissant à l'exposition de la présence de Dieu, pousse dans notre vie et amène cette bénédiction tout autour de nous, non seulement à nous-mêmes, mais autour de nous, et qui devient plus grande que ce que les petits légumes de ce monde, excusez-moi l'image, mais quand on compare ce que les joies de ce monde à la joie d'avoir la foi dans notre cœur, c'est incomparable. Et ça devient plus grand, vous avez vu, plus grand que le reste. Je prends ce dernier passage parce que la foi, des fois, les gens ont beaucoup de foi, mais beaucoup de foi dans des choses qui ne sont pas bonnes, pas la foi qui sauve. Nous devons avoir foi dans la parole et dans le psaume chapitre 1er, il nous est donné ces conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce verset en particulier. Des fois, on lit juste un verset dans une page, et tout ce qu'il fait lui réussit. Ah, mais ça me donne envie. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il faut placer notre foi dans la parole de Dieu, et plus que placer notre foi, plus que de le croire, mais trouver son plaisir dans la voie de l'Éternel. Et parce que nous faisons cela, eh bien nous devenons comme un arbre qui apporte la bénédiction autour de lui, parce qu'un arbre, un arbre fruitier en particulier, qu'est-ce qu'il fait quand il a bien poussé? Il produit du fruit qui peut nourrir les personnes qui sont autour. Quand nous avons la foi dans la parole, non seulement nous sommes bénis, non seulement nous pouvons grandir, non seulement nous pouvons surpasser tout ce que les gens font avec les choses de ce monde, mais en plus nous pouvons être des bénédictions par nos propres vies. Mais voilà, il faut ces trois attitudes. Que devons-nous faire? Avoir la foi, se repentir, se convertir. Et si nous faisons cela, eh bien devant Dieu nous pouvons grandir. De quelle valeur sommes-nous aux yeux de Dieu? On pourrait se recueillir un instant et réfléchir à cette question. Quelle est la valeur de ma vie devant Dieu? C'est vrai que Dieu a donné son Fils, a payé le prix cher pour que nous puissions devenir des nouvelles créatures, mais tant que je ne passe pas par ces trois attitudes de cœur, tant que je n'ai pas la foi, tant que je ne me repens pas, tant que je ne me convertis pas, je reste une créature souillée par le péché. Mais si avec humilité je reconnais mon péché, si je demande pardon, si je demande au Seigneur d'être celui qui dirige ma vie, si je place ma foi dans sa parole, si je crois dans le sacrifice de Jésus qui me lave par son sang, alors je peux devenir quelqu'un qui va plaire au Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et si j'essaye de le faire par moi-même, ça ne marchera jamais. Mais Dieu a fait ce qu'il fallait pour que je puisse devenir une nouvelle créature. Il faut simplement que je me place en Christ. Oui, Seigneur, c'est toi qui t'es donné pour moi. Oui, Seigneur, tu as payé pour mon péché. Oui, Seigneur, tu me donnes les conseils pour que je marche avec facilité dans la lumière de ce monde, sur le chemin de la vie, dans la lumière de ta parole plutôt, sur le chemin de la vie. Dans ces instants éternels, je comprends que ma vie est d'un grand prix à tes yeux. Je comprends que ton amour est grand. Et je comprends, Seigneur, que tu veux me faire de moi une nouvelle créature. Prions le Seigneur un instant. Éternel, merci. Merci pour ta parole. Il est vrai que notre vie n'est qu'un souffle, que notre vie est bien éphémère et fragile. Il est vrai aussi que tu t'intéresses à nous. Qu'est-ce que nous sommes pour que tu te souviennes de nous, Seigneur ? Et pourtant, tu t'en souviens. Tu t'en es souvenu de notre nature pécheresse au point d'envoyer ton Fils. Tu te souviens de nous jour après jour, alors que nous sommes dans la détresse, dans la maladie, dans l'épreuve, Seigneur. Tu te souviens de nous parce que tu veux intervenir en notre faveur, mais tu nous demandes d'abord de devenir ces nouvelles créatures qui vont pouvoir grandir devant toi. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir, nous qui sommes touchés par le péché, salis par le péché, quelle grâce de pouvoir, à cause de ton sacrifice, grandir devant toi, être le plus grand dans le royaume de Dieu. Seigneur, c'est quelque chose d'incroyable. Et dans ces instants, nous voulons te bénir pour ton amour merveilleux. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir ceux qui sont dans la difficulté. Oui, parce que tu te plais à intervenir en faveur de ceux qui souffrent, comme Jésus a pu guérir le malheureux, comme Jésus a pu guérir le boiteux, l'aveugle, Seigneur. Ce soir, tu veux guérir celui qui boite spirituellement, celui qui est aveugle spirituellement. Tu veux, Seigneur, intervenir encore ce soir, parce que tu es plein de compassion envers le malheureux, mais tu veux surtout faire de chacun de nous des nouvelles créatures. Alors oui, aide-nous à avoir ces attitudes de cœur, Seigneur, et à faire ta volonté, et à marcher jour après jour dans ce cœur qui veut grandir devant toi, pour la gloire de ton nom éternel. Amen.